La morale n'a de sens que si elle est ordonnée au salut, que si elle est un moyen de nous faire marcher droit. Je dis marcher droit parce que ça se dit orthodoxie, hein, orthodoxe, de nous faire marcher droit vers le royaume. Vous voyez, c'est très important, hein. Aujourd'hui, pour vous dire que nous sommes dans un univers qui n'a plus rien à voir avec tout ça, hein, nous sommes sur les éthiques sécularisées aujourd'hui qui sont autour de nous, hein, le capitalisme néolibéral, ce sont c'est beaucoup, vous savez, comme dans le déclin de l'Empire américain, c'est ce qu'on appelle les ismes, hein, donc l'utilitarisme, le conséquentialisme, toutes ces théories éthiques contemporaines, ce sont des théories éthiques sécularisées, qui se fichent totalement de la métaphysique. Ce n'est pas leur univers. En réalité, c'est notre univers à nous qui sommes croyants. C'est-à-dire que dans notre univers à nous, la morale n'est pas intéressante forcément pour elle-même. Elle est intéressante parce qu'elle nous guide vers le royaume, donc vers au-delà d'elle-même. C'est le grand thème augustinien. Et c'est un thème tout à fait identique à Augustin et à saint Thomas d'Aquin. C'est très important parce que après saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire dans les tout premiers disciples de saint Thomas d'Aquin, et ça surtout au XIVe siècle, ça va commencer à être cet équilibre-là va commencer à être rompu. Hein, et de plus en plus, on va s'habituer à parler de morale sans parler de la vision béatifique, hein, sans parler du bonheur en Dieu. Hein, mais écouter et puis intégrer ce que j'ai pu raconter l'autre jour en travaillant avec Jean-Yves, il y a quand même des différences de fond entre les pères de l'Église et saint Thomas d'Aquin. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, on pourrait dire c'est des différences de style, c'est-à-dire, les pères de l'Église, c'est d'abord une théologie prêchée. Donc, il faut penser à votre curé le dimanche, après le déconfinement, et certainement bien après le 11 mai, n'est-ce pas? La théologie des pères de l'Église, c'est une théologie qui se fait au moment où ils prêchent, où ils commentent l'Évangile, où ils commentent toutes les Écritures. Et pourquoi? Ben c'est tout simple, c'est parce que les pères de l'Église étaient des abbés, des évêques, et donc ils avaient ce souci de communiquer, je dirais, en direct ce qu'ils croyaient. Alors ils parlaient de plein de choses, mais ils parlaient aussi de morale. C'est plus du tout le modèle de saint Thomas, hein, puisque saint Thomas, alors si je le caricature injustement, je vais dire c'est une théologie de bureau, si vous voulez. Mais c'est une théologie scola, au bon sens du terme. C'est une théologie d'école, d'université. C'est une théologie qui s'enseigne et qui se transmet, non pas d'abord dans l'exercice de la prédication, mais en écrivant et en organisant de façon rationnelle sa pensée. Voyez, c'est tout à fait différent. Hein, on fait pas, c'est pas le même style de théologie. Alors, vous pouvez d'ailleurs, vous posez-vous la question, vous êtes théologienne ou théologien, c'est quoi votre style? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt du côté d'Augustin en vous disant, moi je commente d'abord les Écritures? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt du côté de saint Thomas en disant, allez, je vais organiser, je vais faire travailler ma raison, je fais travailler ma raison parce que je considère que ma raison est un don de Dieu, et que donc, en travaillant rationnellement avec cet outil intellectuel, je vais réfléchir sur le mystère de Dieu. Vous voyez, ce sont des styles différents. Il faut surtout pas forcer les oppositions, parce que d'abord, si on force les oppositions, on fait des bêtises, ça mène à rien. Hein, mais c'est quand même des styles très différents. Hein. Et c'est pour ça que j'ai voulu les présenter. Et le gros point commun, c'est ça, c'est que chaque fois, il s'agit de faire de la morale parce que elle est un des moyens, il y a les sacrements aussi, hein, et la charité. Mais c'est un des moyens de... Bah, la charité, d'ailleurs, c'est la morale, en fait. Hein, c'est un des moyens de nous orienter vers le royaume. Voilà. C'est ça que j'ai voulu essayer de en étant plus détaillé. Mais là, je vous fais un petit peu presque une synthèse, si vous voulez, de ce... Alors, j'écoute vos questions, hein, comme la dernière fois, si vous en avez. N'hésitez pas.
Une question.
Oui.
Sans vouloir compliquer les choses, est-ce qu'il ne faut pas parler aussi d'Aristote ? Parce que, certes, Aristote ne parle pas de royaume, mais Aristote parle, il ne parle pas bien sûr de béatitude, mais il parle de bonheur comme le suprême bien. Oui. Est-ce que finalement, saint Thomas n'est pas héritier au moins autant d'Aristote que des pères ? Et en réalité, saint Thomas des pères, il hérite, je dirais, le royaume, entre guillemets, hein, bien sûr, et d'Aristote, il hérite la raison. Et oui. Est-ce que finalement, alors, Aristote, la morale, plutôt l'éthique d'Aristote, qui est aussi une éthique de bonheur, ne fait pas partie de cet ensemble ?
Oui, oui.
C'est ce que vous avez dit dans le cours.
C'est ce que j'ai dit.
Vous avez dit dans le cours.
Voilà. Alors, mais je vais le développer davantage par cette question. C'est-à-dire que la grosse originalité de saint Thomas, et j'allais dire les pères n'y pouvaient rien, mais à l'époque de saint Thomas, on redécouvre les textes d'Aristote. Et Aristote devient c'est le seul qui a ce titre. Si vous lisez un peu la somme de théologie, enfin si vous la parcourez, dans le cours de son texte, saint Thomas parle du philosophe avec une majuscule. Mmh. Alors le philosophe, c'est comme pour au XVIIIe siècle, Jean-Jacques, hein, Jean-Jacques Rousseau, on ne donne pas son nom. Eh bien, à l'époque médiévale, le philosophe, c'est Aristote. Mmh. C'est-à-dire que même pas besoin de dire qui c'est Aristote. Hein. Et Aristote devient, vous avez parfaitement raison, une source très importante, pour ne pas dire la source, mais alors là après c'est très disputé, hein, mais la source la plus importante chez saint Thomas en termes de philosophie. Et donc c'est pas sans poser problème d'ailleurs, parce que si vous avez la curiosité d'ouvrir la somme de théologie, vous verrez que saint Thomas d'Aquin met au même plan Aristote et la Bible, ou bien Aristote et les pères, ce qui est un problème, parce que même si Aristote est un philosophe de génie et probablement le plus grand, hein, enfin celui qu'on a cessé de commenter, les philosophes n'ont pas cessé de commenter Aristote, hein, c'est quand même un païen. Alors c'est très intéressant, parce que ça veut dire que saint Thomas, comme théologien catholique, n'a jamais eu peur de se confronter à la pensée d'un païen, fût-ce Aristote, pour faire de la théologie. Et vous avez raison de dire, ça se joue entre autres sur la question du bonheur. Effectivement. De même que ça se joue évidemment sur la question de l'être, puisque pour utiliser un gros mot, si vous voulez, Aristote a fondé, enfin pas tout à fait, parce qu'il y a la philosophie grecque, mais on va prendre un chapeau commun. Aristote a fondé ce qu'on appelle l'ontologie. Donc l'ontologie, c'est la science de l'être, et l'être, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on appelle, si vous voulez, en d'autres termes, pour utiliser un terme aussi de philosophe, l'essence. C'est un essentialisme. Bon, c'est une, comme on dit en français, c'est essentiel. Ben, essentiel en latin, c'est essentialitaire, c'est-à-dire c'est ce qui se pense selon l'essence. Bon, c'est une ontologie. Alors, on retrouve ça chez saint Thomas, c'est évident, mais on a pu dire, la formule est très caricaturale, mais enfin, elle n'est pas fausse. Là, on a pu dire que saint Thomas avait baptisé Aristote. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est une formule qui est un côté facile, mais elle permet de, elle permet quand même de comprendre, si vous voulez, c'est-à-dire saint Thomas a repris la question de l'être chez Aristote, sauf que chez saint Thomas, il s'agit de l'être un et trine. C'est plus du tout le paganisme d'Aristote. Hein, voyez. Alors évidemment, la doctrine du bonheur chez Aristote et chez saint Thomas, ce ne sont plus les mêmes. Mais, alors, mais pour aller dans, pour abonder dans le sens de la question qui m'a été posée, il, on parle très communément, vous, vous trouverez ça sous la plume de très nombreux auteurs, on parle souvent de l'aristotélo, plus loin, avec un thomisme, l'aristotélo-thomisme, c'est-à-dire, on en parle comme d'un courant unique, Aristote tiret saint Thomas. Le problème, c'est que moi, je me méfie beaucoup du tiret, hein, parce que saint Thomas n'est pas réductible à Aristote. Pas du tout, hein. Mais on est bien d'accord, c'est une, saint Thomas, on pourrait dire, c'est une refonte de la théologie hein, chrétienne, mais, enfin une refonte. Les thèmes grecs ont toujours couru dans la théologie chrétienne. La plupart de nos dogmes, les dogmes sur le Christ et sur la Trinité, validés par tous les conciles, ces dogmes sont appuyés sur Athènes, donc sur la philosophie grecque, hein, avec l'idée de substance, etc. Donc, c'est pas. Par ailleurs, c'est pas étonnant. Par ailleurs, dans la somme de théologie, il y a le philosophe, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres emprunts de philosophie et les néo-platoniciens, par exemple. C'est intéressant de voir un peu les sources philosophiques de la somme de théologie. Voyez, hein. Mais vous avez raison de dire que Aristote est une, a pris une dimension toute particulière chez saint Thomas, et après on peut dire toute la théologie catholique en sera profondément marquée.
Oui. Et quels sont les points vraiment de morale sur, repris à Aristote?
Alors, l'aristotélisme a surtout influencé la dogmatique, mais en ce qui concerne la morale, ce qui a influencé dans la philosophie grecque, ce qui a le courant philosophique grec qui a influencé la morale chrétienne, c'est d'abord le stoïcisme. Hein, les stoïques, vous savez, alors quand on dit en français « je suis stoïque », ça veut dire « je résiste à tout, je résiste au choc », on dirait aujourd'hui « je suis résilient hein ». La résilience, c'est une forme de stoïcisme, si vous voulez. Bon. Mais le gros emprunt, c'est une bonne question de la part d'Aude, parce que le gros emprunt grec fait aux Grecs par les chrétiens est fait du point de vue de la morale aux stoïciens. Et je vais donner un exemple. Tout ce qui relève de la maîtrise, je vais prendre ce mot-là. La maîtrise de soi, ouais. La maîtrise morale de soi, se dominer, se maîtriser, se discipliner, c'est un héritage stoïcien.
La conscience aussi ou...
Alors, je reviendrai là-dessus. C'est un héritage stoïcien, c'est-à-dire que vous trouvez dans la vie morale comme dans la vie spirituelle. C'est-à-dire, c'est le contrôle des passions. Le contrôle des passions. Alors, je le développe un peu parce que je réponds à la question d'Aude, mais dans le cours prochain que je vais enregistrer, je vais développer ces thèmes-là, hein, mais je peux déjà les approcher, si vous voulez. Hein. C'est la morale des passions. C'est-à-dire, jusqu'à saint Thomas, les passions chez les chrétiens étaient très mal vues. D'ailleurs, vous savez, saint Thomas a totalement échoué parce que c'est toujours mal vu. Hein. Mais les passions, pourquoi ? Parce que les passions sont la théologie des passions, si vous voulez, la morale des passions dans la théologie chrétienne, elle est héritée des stoïciens. Et les stoïciens se méfiaient des passions. Les passions étaient connotées de manière très négative. C'était notamment ce qu'on appelle les passions de l'irascible, hein, iré, dies iré, l'irascible. La colère est une passion qu'il faut dominer, qu'il faut maîtriser. Tout ça, c'est l'héritage stoïcien. Dans la somme de théologie, sur les passions, ça fait évoluer la doctrine. Ce que saint Thomas considère, ça c'est très intéressant parce que c'est vraiment une rupture hein, par rapport à l'héritage avant saint Thomas. Les passions chez saint Thomas sont neutres, c'est-à-dire elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Tout dépend ce que l'on en fait. Alors là, vous avez tout dépend ce que l'on en fait, c'est-à-dire tout dépend de la responsabilité morale que vous avez à agir selon le bien ou pas. Mais après tout, Dieu nous a donné une raison, une liberté, une volonté, et donc nous sommes libres d'agir selon le bien, et les passions en elles-mêmes sont neutres. Ça, c'est un héritage des stoïciens, majeur des stoïciens, que saint Thomas a un petit peu détricoté. Quand je dis saint Thomas a échoué, c'est une boutade, mais pas seulement, parce qu'effectivement, dans la tradition spirituelle en particulier, et jusqu'à aujourd'hui, hein, il est tout à fait usuel de dire « Oh là là, les passions, attention, ça va nous entraîner au pire. Hein. » Mais voilà, c'était pas exactement le... Mais je donne l'exemple des passions pour répondre à la question d'Aude, hein, parce que le courant moral grec dans lequel la morale chrétienne a le plus puisé, ce sont les stoïciens. C'est-à-dire, quitte à faire de la morale chrétienne un petit peu une caricature en disant il faut se maîtriser de tout. Mais quand on se maîtrise de tout, on se passe aussi de tout. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on ne construit une morale que sur la domination de soi, jusqu'au moment où on ne se domine plus. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, c'est une morale qui, si on la caricature, qui peut être très négative. Qu'est-ce que la morale chrétienne ? Ah ben surtout, oulala, ayons peur des passions. Alors je vous dirai la prochaine fois, parce que quel est le cœur de la morale de saint Thomas ? Et vous verrez que le cœur de la morale de saint Thomas, contrairement à ce que les stoïciens enseignaient, ça n'est plus les passions.
Alors, ça, est-ce qu'on range l'amour dans les passions ou pas ?
Alors l'amour c'est une vertu. Ah ben, ça y est, j'ai lâché le mot. Hein, l'amour c'est une vertu. Donc c'est une vertu, c'est même une vertu théologale. Mm. Et donc ce qui organise, mais c'est pas grave, le cours avance en comme ça aussi. Hein, ce qui fait le cœur de la morale de saint Thomas, ça n'est plus les vertus, ce sont les vertus. Mm. Ça c'est très important. C'est vraiment le moteur moral de la vie chrétienne, selon saint Thomas, sont les vertus. Hein? Alors, il faut là juste un petit peu vous rappeler vos anciens catéchismes. Hein? Les anciens catéchismes, comme l'actuel d'ailleurs, disent ça comme ça. La morale est structurée sur les vertus, les trois vertus théologales et les quatre vertus cardinales. Et la morale est une vertu théologale, donc une vertu donnée par Dieu lui-même. Et donc, ce qui structure la vie morale, ce n'est plus la maîtrise des passions, c'est la dynamique des vertus. Parce que les vertus, si vous voulez, c'est une dynamique. Les vertus, c'est comme, si vous voulez, c'est la musculature de la vie morale. C'est ce qui nous permet d'agir selon le bien. Autrement dit, vous voyez, si on en était à la morale des stoïciens, si on était resté à cette morale-là, donc avant saint Thomas, on aurait eu beaucoup de morale fondée sur la maîtrise de soi. C'est-à-dire, je passe mon temps à me surveiller moi-même pour voir si je me contrôle ou pas. n'est pas l'optique de saint Thomas. Saint Thomas dit qu'en morale, l'important, ce n'est pas de se contrôler, c'est d'agir, et d'agir selon le bien. Vous voyez, alors là encore, on ne peut pas opposer les deux, on est bien d'accord. Mais pour saint Thomas, le cœur de la vie morale, quand même, hein, c'est beaucoup plus les vertus que les passions. Et les passions, elles ne sont pas forcément toutes mauvaises. Voilà.
Justement, les vertus, est-ce que ce n'était pas chez Aristote déjà ? C'est ça.
Oui, bien entendu.
Ça existait.
Voilà, bien entendu. Bien entendu. C'est-à-dire que, absolument, c'est-à-dire que saint Thomas a servi de l'arbre grec, si vous voulez. On pourrait prendre la métaphore de saint Paul entre l'olivier franc et l'olivier sauvage, si vous voulez. Mais il s'est servi de l'architecture grecque des vertus. Et pour reprendre le mot que j'ai utilisé, il les a baptisées. Hein. Oui. Quand vous visitez, enfin on ne peut plus les visiter pour l'instant, mais quand nous aurons l'occasion de revisiter nos musées préférés, n'est-ce pas, et le Louvre et compagnie, ou même les grands bâtiments de le palais de justice à l'heure actuelle, vous entrez dans les grandes salles, les grandes pièces, vous levez les yeux, vous voyez les vertus grecques hein, représentées, la justice, la prudence, etc. Saint Thomas a repris tout ça.
Exactement.
Il a repris tout ça, sauf que il a fait prédominer les trois vertus théologales, c'est-à-dire croire, aimer, espérer, hein, qui sont, je le dis avec les verbes parce que les verbes sont plus dynamiques que dire la foi, l'espérance et la charité, croire, espérer, aimer. Hein, et comme dit saint Paul, la plus grande des trois, voilà, vous savez la suite. Hein. Mais donc, ce sont les vertus théologales qui sont les vertus qui animent, au sens fort, qui animent la vie chrétienne.
Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, commenter ce que vous dites vers la fin de votre cours? Saint Thomas est saint Thomas est la synthèse entre la foi et la raison, comparé à une cathédrale.
Oui.
Question de style.
Je vais vous le. C'est pas par hasard que j'ai utilisé l'expression de cathédrale. C'est parce que c'est aussi un lieu commun de la théologie. Alors, quand on parle de saint Thomas, on compare souvent saint Thomas à une cathédrale. Je m'explique. C'est les théologiens qui ont commenté hein, saint Thomas. Pourquoi cathédrale ? Malheureusement, maintenant, j'ai un très bon exemple. C'est Notre-Dame de Paris. Regardez l'architecture gothique, surtout l'architecture gothique. L'idée, si vous voulez, le principe de la clé de voûte, d'accord ? La clé de voûte. Si vous retirez une pierre, si vous retirez un aspect, tout s'écroule. Donc, c'est la même chose dans la somme de théologie. Si vous extrayez, si vous retirez, si vous séparez, si vous isolez un élément de l'ensemble, c'est tout qui perd son sens. C'est vrai aussi pour la morale, c'est-à-dire, c'est pour ça que dans le cours, en parlant à Jean-Yves, je disais à Jean-Yves que finalement, on ne peut pas dire qu'il y a une... comment dire ? Ça n'a aucun sens d'isoler la morale de saint Thomas des autres parties de la somme de théologie. Parce que la morale ne se comprend que connectée aux autres parties. Comme dans une cathédrale, ça n'a aucun sens de commenter une clé de voûte si vous ne comprenez pas, ou un vitrail, si vous ne comprenez pas l'ensemble des vitraux, si vous séparez, si vous retirez un arche complet, c'est toute la cathédrale ou toute la nef qui s'écroule. C'est la même chose pour comprendre la somme de théologie. Alors, ça veut dire aussi que c'est un édifice fragile, très fragile. Hein. Par exemple, dans les vertus, c'est facile. Si vous séparez les vertus théologales des vertus cardinales, ça n'a plus aucun sens. Si vous séparez la morale de saint Thomas de son objectif ultime qui est contempler le Dieu, un et trine, la morale n'a plus de sens. Oui, donc l'image de la cathédrale, la métaphore de la cathédrale permet de comprendre que tout se tient dans la somme de théologie. Et que le malheur de, des siècles, mais même des dizaines, des décennies qui ont suivi saint Thomas, c'est qu'on on a tronçonné la cathédrale. Et c'est là où il y a eu des déséquilibres dans la morale catholique, à mon sens, ne s'est jamais relevé. Hein. Et donc, l'image de la cathédrale, je vous l'ai donnée parce que d'abord, elle est très facilement mémorisable, parce qu'on lit, on l'entend beaucoup, hein, on a l'habitude de comparer la morale de saint Thomas à une cathédrale, mais il faut aussi, puisque vous m'avez posé la question, faire un peu son autocritique, c'est-à-dire, est-ce que la morale de saint Thomas est vraiment une cathédrale ? Parce que saint Thomas était génial, d'accord, mais d'abord, c'est une cathédrale inachevée, puisque saint Thomas est mort sur la route du Concile de Lyon. Donc, vous n'avez pas d'ecclésiologie. Enfin, pas. Vous avez peu d'ecclésiologie dans la somme de théologie. Mmh. Ensuite, quand on commence à comparer un auteur, fut-il saint Thomas, à une cathédrale, c'est qu'on fait de cet auteur quelque... Enfin, il y a une espèce de tentative de perfection. On ne peut pas y toucher, vous voyez ? C'est-à-dire que saint Thomas devient presque plus important que la Bible. La Bible, si vous voulez, c'est je me souviens d'un de mes profs d'exégèse qui me disait « La Bible, c'est un texte très mal écrit. Hein? » Saint Thomas, c'est parfaitement écrit. C'est parfaitement écrit. C'est une cathédrale. Alors que la Bible, mais c'est un bazar permanent. Il y a des bagarres.
Parce que la Bible, c'est des multiplicités d'auteurs.
Voilà, voilà.
Et d'époque.
Il y a d'excellentes raisons à tout ça. Il y a d'excellentes raisons à tout ça. Mais vous voyez, on n'est pas dans le même genre de texte. C'est-à-dire que la somme de théologie se prête plus à une pensée totalisante. Vous voyez, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'a dit saint Thomas ? Et une fois qu'on sait ce qu'a dit saint Thomas, on ne réfléchit plus. C'est toutes les réponses. Or, saint Thomas, c'est aussi un texte du très.
On l'a perdu.
Ah, ça bug.
Ces exemples-là. La biologie de saint Thomas, je ne sais pas s'il y a des biologistes parmi vous, mais la biologie de saint Thomas, elle est très dépendante des lois qu'on connaissait, des lois du vivant du XIIIe siècle. Hein? C'est plus forcément ce qu'on sait aujourd'hui de la biologie au XXIe siècle. Vous voyez ? Bon, c'est... Oui.
À la fin de votre cours, vous nous aviez invité à regarder un peu dans le plan de la Somme où se trouvait la morale. Ouais. Tout le monde a dû regarder, moi j'ai regardé un peu en diagonale, je l'avoue, mais elle est dans la deuxième partie, ce qui apparaît logique à tout le monde, puisqu'on s'occupe d'abord de Dieu qui est premier, le Créateur, avant de parler de la créature. Donc c'est logique que ce soit en deuxième partie. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous affiner le
titre ? Oui. Quand on commente le plan de la somme de théologie, la première chose qui frappe, c'est que la morale est seconde. Vous l'avez relevé vous-même, vous avez dit que c'est la deuxième partie. Bon, le premier constat qu'on fait, c'est que saint Thomas ne commence pas par la morale. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que ça veut dire que dans la somme de théologie, la morale n'est pas secondaire, elle est seconde. Mais elle est quand même seconde. Ce qui compte d'abord, c'est Dieu.
Absolument.
C'est très important. Parce que vous savez que nous-mêmes, dans notre réflexion, quand on parle de théologie morale, il ne faut jamais oublier que la question la plus importante, c'est Dieu. Même quand on fait de la morale. Très important. Ensuite, quand vous regardez le plan de la somme de théologie, il parle... Dans la première partie, il parle d'abord de Dieu, de Deo, ça s'appelle De Deo Uno, oui, c'est-à-dire du Dieu unique. Mm. Et si vous allez après la morale, après, C'est-à-dire au-delà de la deuxième partie. Puis vous avez vu, il y a deux parties dans la deuxième partie. Hein. Mmh. C'est comme une bonne dissertation. D'accord. Voilà, on se croirait un normal sup. Hein. Bon. Quand vous allez au-delà de la morale, si je puis dire, vous avez le Christ.
Chez Saint Thomas. Oui, c'est la dernière partie, la Christologie.
Le Christ et les sacrements.
Ouais.
Alors, ça a beaucoup frappé, ça. Ça a beaucoup frappé les théologiens.
La tertia pars. Oui,
voilà, la tertia pars. Et parfois, ça a beaucoup choqué. Beaucoup choqué. Ça devrait vous choquer, d'ailleurs.
Oui, moi, ça m'a un peu interpellée. Ah bah,
je suis heureux de vous l'entendre dire.
D'avoir l'homme en deuxième partie. Et...
Ah bah voilà.
Et la Christologie, le Christ en dernière partie.
C'est quand même... Hein, c'est énorme.
Bah oui. Donc, et alors disait,
dans la première partie, alors, il parle des trois personnes quand même. Déjà dans la première partie, voilà, avant la morale. Voilà.
Oui, voilà. Enfin, c'est le développement n'est pas comparable.
Il développe beaucoup plus la Christologie.
Avant le Christ,
dans la première partie, c'est le Dieu trine.
Voilà.
Historiquement, l'homme existait avant le Christ.
Voilà, voilà, voilà.
Ah, je ne vous entends plus.
On a commencé, les remarques préliminaires qui viennent des...
Vous avez été coupé
le début.
Vous avez été coupé, on n'a pas entendu le début de votre phrase.
D'accord, alors je recommence. Je dis, ce qu'on est en train de, on est en train de réaliser là, aujourd'hui, en commentant le plan de la Somme, ces quelques remarques préliminaires, ça tient des maîtres de rayon dans la bibliothèque. Oui. C'est-à-dire le commentaire du plan de la Somme, ce qu'on est en train de faire là. Les remarques que vous vous êtes faites les uns aux autres, c'est exactement ça. C'est-à-dire ce qui est très frappant. Alors, je vous donne quelques clés comme ça, pour essayer de comprendre, parce que chacun peut avoir son point de vue sur le plan de la Somme. Hein. C'est très intéressant, ce n'est pas du tout un plan fermé, c'est très ouvert. Par exemple, vous pouvez dire... on peut beaucoup choquer... en disant, certes, bon Jésus, bon, j'allais dire l'honneur est sauf, mais il ne parle de Jésus. Alors, je recommence.
Oui.
Je dis, Saint Thomas, on peut se du fait que Saint Thomas ne présente Jésus, enfin il le présente dès le début, mais il ne parle de la Christologie qu'après. Mmh. Et après, et il parle de la morale entre les deux. Mmh. Et il commence par parler du Dieu unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une des explications, ça veut dire que Saint Thomas a préféré présenter, ça, c'est la question sur Aristote hein, qui a été posée tout à l'heure, a préféré présenter ce qu'il y a de commun, avec les hommes qui croient ou qui ne croient pas, ou qui croient autrement, ou qui ont un Dieu unique, Dede Uno, et parler de Jésus-Christ. De même, il parle de la morale d'abord parce qu'il pense que ce n'est pas d'abord une affaire réservée aux chrétiens, c'est une affaire dont tout le monde, à laquelle tout le monde doit s'intéresser. Voyez, c'est-à-dire que le plan de la Somme, c'est une des explications qui a été donnée, je ne vous dis pas, ce n'est pas la seule et elle n'est pas totalement convaincante, mais je vous la donne parce qu'elle est souvent donnée. Hein. Il a d'abord préféré parler de ce qu'il y a de commun, c'est-à-dire, après tout, avec les fils d'Israël et avec, on disait à l'époque, les Mahométans, hein, il y a le Dieu unique. Hein. Après, on parle de Jésus-Christ. Et puis, il y a une morale commune. Songez aujourd'hui à l'intérêt d'une telle démarche avec la déclaration des droits de l'homme. Hein. Il y a une morale commune. On parlera de Jésus-Christ après. Ça a beaucoup choqué parce qu'on s'est dit, mais d'éminents théologiens, plus proches des pères de l'Église d'ailleurs, ont dit mais c'est pas possible. On ne peut pas, à cause de l'identité chrétienne, on ne peut pas reléguer Jésus-Christ à la troisième partie de la somme de théologie. Ce plan est bancal. Donc, ça a été extrêmement critiqué. Vous voyez, c'est très modeste, une belle leçon de modestie, parce que même le plan de la somme de théologie est critiqué par les théologiens. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, quand on fait un peu de théologie, on peut être critiqué ou critiquable. Hein, mais alors, c'est une démarche qui est pas avec l'ensemble de la démarche de saint Thomas. C'est-à-dire, saint Thomas fait fond sur ce qu'il y a de commun. Il ne commence pas par s'opposer. Après, il entre, si j'ose dire, comme on dit maintenant, il entre dans le dur, dans ce qui fait l'identité. Hein. Ce n'est pas la démarche des pères. Les pères de l'Église, c'était tout à fait différent. Les pères de l'Église, ils auraient commencé par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous sauve. Salut en Jésus-Christ. L'affirmation haute et ferme de l'identité chrétienne. C'est vrai que Thomas a inversé. Mais regardez le texte de... Thomas n'est pas si original que ça. Prends dans toutes les... Que serais-je sans l'amour, etc. Il n'y a pas une seule fois le nom de Jésus. Tout le monde s'extasie sur l'hymne à l'amour. C'est un des beaux textes de saint Paul. C'est un texte en effet magnifique, qui est un texte mystique. Jésus n'est pas mentionné. Mais c'est ce qui fait qu'on prend ce texte, parce qu'on dit que même nos amis non chrétiens vont trouver que c'est un beau texte et qu'ils pourront partager ces mêmes valeurs avec nous. Bon, saint Paul. Bon, il y a d'autres exemples à donner. Mais donc, en fait, ça veut dire, le plan de la somme de théologie, ça veut dire par quoi je commence quand j'annonce la foi qui est la mienne. Est-ce que je commence par les valeurs communes que je partage avec d'autres, ou est-ce que je commence tout de suite par l'annonce explicite de Jésus-Christ? Et voyez que dans ce débat-là, qui est un débat qui, je pense, nous traverse tous, hein, quand ce débat-là, la morale, comme vous l'avez très bien remarqué, elle est au deuxième plan. Vous voyez, saint Thomas, il ne commence pas par la morale, mais il vient mettre la morale au milieu. Donc, une fois qu'il a parlé de Dieu un et trine, mais avant de parler en effet de Jésus-Christ et de Christ, eh bien, il parle de la morale. Vous voyez, c'est une... Alors, les théologiens qui sont très à l'aise avec saint Thomas aiment beaucoup la somme de théologie, évidemment, c'est ce que je dis là est une banalité affligeante, mais ils sont très à l'aise avec ce type de plan. Les moralistes qui sont plus proches des pères de l'Église trouvent que saint Thomas a trop cédé à Aristote. Ça, c'est un reproche de fond. Hein. Saint Thomas a trop cédé à Aristote. Et saint Thomas n'est pas assez explicite. Aurait dû commencer par... posez-vous la question vous-même, si vous aviez aujourd'hui à rédiger un catéchisme pour vos enfants, ou arrive une encyclique, après tout ça viendra peut-être, on ne sait pas. Vous commenceriez par quoi? Jésus-Christ ou les valeurs du royaume? Les béatitudes? Ou bien, vous voyez ce que je veux dire? On commence par quoi? Vous voyez, dans saint Thomas, c'est intéressant, la morale, elle est seulement en deuxième partie. Donc, c'est... La question que vous avez posée à partir du plan est tout à fait... Et voyez que le plan de la somme de théologie, ça illustre bien, parce que là, je vous vois, à voir vos visages, je vois que vous réfléchissez, hein, ça illustre bien la question de la somme de théologie comme cathédrale. La question de tout à l'heure d'Antoine, c'est-à-dire, c'est une cathédrale ce plan. Vous comprenez bien que si vous retirez une partie, même une sous-partie, même une question, tout s'écroule. Et on ne comprend pas pourquoi il a mis la morale après, le Christ, Jésus-Christ. Vous voyez, c'est extrêmement connecté. Par ailleurs, faites aussi, si vous avez la possibilité, aujourd'hui ou dans les jours ou les semaines qui viennent, je vais en parler la prochaine fois, saint Thomas ne sépare jamais non plus la vie morale de la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'à chaque comportement moral, il associe un fruit dans la vie spirituelle. Très intéressant. C'est-à-dire, la morale, on en fait, ok, mais la morale n'a de sens que si elle sert à nous convertir. Donc, elle a forcément un lien intrinsèque avec les dons de la vie spirituelle, les charismes, si vous voulez, de la vie spirituelle. Vous voyez ? Là encore, tout ça, en effet, sous la forme d'une cathédrale. Si vous séparez un élément, c'est finalement tout le mystère chrétien qui est disloqué. Voilà.
Et alors, justement, si elle est en deuxième partie.
Oui.
Si elle est en deuxième partie, elle a un rôle de pivot, la morale, puisque vous dites qu'elle a son rôle dans la conversion. Donc, en fait, comme un universitaire qui part de ce que tout le monde peut concevoir pour arriver au particulier, et donc à notre foi spécifique, donc la conversion en Christ, ça justifierait la troisième place pour la christologie.
Alors, je ne dirais pas qu'elle a un rôle. Elle peut avoir un rôle pivot, on peut le dire comme ça, oui. Oui. Elle a plus un rôle de chemin, c'est-à-dire pour saint Thomas, la morale est un chemin. C'est un chemin, mais vous savez, c'est un peu comme dans les petites blagues pseudo-spirituelles. Il ne faut pas confondre le chemin avec le but. Hein. Et la morale, ça n'est que le chemin.
Ouais.
C'est essentiel d'avoir le chemin. Hein. C'est, comme on dit souvent, la morale sont des repères. C'est vrai. C'est-à-dire, ça permet de baliser la route. Mais il ne faut pas confondre le chemin avec l'objectif. Mais oui, on peut garder le pivot. C'est quelque chose qui a un sens dans la vie spirituelle auquel on est. Et puis d'ailleurs, le chemin, c'est Jésus. Hein. Voilà. Donc l'idée du chemin, c'est un thème évangélique aussi.
Vous avez dit que aussi dans votre intervention que ce livre n'était pas terminé. En lisant le plan, on aperçoit qu'il y a énormément, énormément de choses. Qu'est-ce qui manque en fait ?
Il manque l'Église.
Ah, d'accord.
L'Église, ouais. Et donc c'est alors, il manque l'Église comme traité constitué, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réflexions concernant l'Église dans l'ensemble de la somme. Mais il n'y a pas un traité de l'Église en bonne et due forme. Et de même, si vous regardez la fin de la Tertia Pars sur les sacrements, il n'a pas complètement fini non plus.
Et pourtant, ce n'était pas son dernier ouvrage, la Somme.
Ah non, non, mais ce n'est pas le seul surtout. C'est-à-dire que vous avez la Somme contre les gentils, vous avez tout un corpus, vous avez également des commentaires de l'écriture de saint Thomas. Mais alors là, les épîtres de Paul commentés par saint Thomas, allez les regarder, c'est intéressant, mais saint Thomas ne peut pas s'empêcher de faire ce qu'il fait tout le temps. C'est-à-dire, il organise sa réflexion de manière extrêmement rationnelle. Et à mon sens, pour moi, je trouve que ce n'est pas du tout vivant. C'est un commentaire de l'écriture qui est très rationalisé, qui n'est pas très vivant. C'est absolument pas aussi vivant que les prédications des pères de l'Église. Quoi. Mais ça change quand vous avez le saint Thomas, auteur de la Somme de théologie, ça vous donne une certaine impression sur saint Thomas. Mais si vous allez lire saint Thomas commentant l'écriture, ça vous donne un autre saint Thomas tout de même. On n'a pas l'impression que c'est tout à fait le même. Donc c'est intéressant comme différence. Mais si vous voulez, la Somme de théologie, ça, c'est, je vous l'ai dit comme je vous l'ai dit la dernière fois, la Somme de théologie, quand on a les pères de Concile de Trente, on célébrait le Concile de Trente, ils avaient posé sur l'autel la Bible et la Somme de théologie. Ce qui en soi est tout à fait spectaculaire parce que la Somme de théologie semble avoir la même autorité que la Bible. Or, moi, je n'ai jamais remarqué que la Somme de théologie faisait partie des sources de la révélation chrétienne.
Et alors, est-ce que c'est lui qui a tout écrit dans la Somme de théologie ou est-ce qu'il y a eu un travail d'équipe à un moment donné ?
Ah non, 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 non. C'est entièrement de sa main et c'était conçu comme un ouvrage pour des grands débutants. C'était les grands débutants de la théologie.
Ah, dis donc.
Oui, oui, oui. Bah, bien sûr, oui. C'est-à-dire que bougez pas, je vais vous chercher un exemplaire. Hein. Bougez pas.
et de la vulgarisation.
J'en prends un chariot.
J'en profite pour vous dire que je partirai à 3 heures.
Très bien.
Oui.
Il y en a 4 comme ça.
Mmh. Ah. Ah, wow.
Il y en a 4. Hein. Ouais. Voilà.
D'accord.
Comme ça. Alors là, je comme ça, c'était un ouvrage de grands débutants.
D'accord. Vous imaginez. Est-ce qu'il y a une petite édition Reader Digest?
Il y a une très bonne édition qui est une édition ancienne, qui est une édition qui s'appelait l'édition des jeunes, la revue des jeunes.
Et donc, voilà,
la revue des jeunes, c'était des petits fascicules qui publiaient la somme de théologie par question. C'est-à-dire, alors c'est 10 pages, si vous voulez, à chaque fois.
Ah, c'est bien ça.
Mais quand vous, oui, c'est bien. Vous la trouvez encore en bibliothèque, bien entendu, parce que c'était une très bonne édition.
On a ça au CIF. Est-ce qu'on l'a au CIF?
Mais la revue des jeunes, non.
Non.
Mais la somme de théologie, voilà la couverture. Ça, c'est la somme de théologie qui a été publiée dans les années 80 avec une nouvelle traduction. Il y en a d'autres maintenant. Hein. Mais c'est pour vous dire que c'est 4 tomes comme ça.
Ouais.
4 tomes. Et en principe, pour les grands débutants en théologie, ça laisse rêveur, non?
Oui, ça laisse rêveur.
Ça laisse rêveur, voilà.
Il n'y a pas la somme pour les nuls?
Mais il faut vous dire quand même que ces 4 tomes représentent encore aujourd'hui le texte de référence de la théologie catholique. C'est le texte, hein. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est le XIIIe siècle, on est d'accord qu'on est au XXIe, qu'il y a un gap culturel considérable, mais n'empêche que quand on veut se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on peut dire exactement sur l'Esprit Saint, sur le rôle de l'Esprit Saint dans la Sainte Trinité, hop, on va chercher dans la Somme pour voir si c'est bien ça. C'est, le magistère fait ça, enfin fait ça. Non, non. Le magistère devrait faire ça tout le temps. C'est-à-dire regarder dans la Somme de théologie si c'est bien conforme à Saint Thomas. Vous voyez ? Mais c'est l'ouvrage de référence. Alors, il plaît, il passionne, parfois il suscite également les oppositions. Parce que c'est un vieux texte quand même, 13e siècle, on peut pas, voilà. Mais on ne peut pas ne pas se situer par rapport à en théologie catholique, en tout cas c'est impossible, et pour la morale, même chose, hein. Et pour la morale, et je terminerai là-dessus parce que je vois que l'heure tourne, mais pour la morale, il faut vous dire que saint Thomas était considéré comme un moderne, et ça répond à la question qui m'a été posée au début sur Aristote. Saint Thomas a utilisé Aristote. En utilisant Aristote, il a été considéré comme un moderne. Alors, il y a un anachronisme à dire un moderne, mais c'est ça. Un moderne que l'on opposait au père de l'Église, notamment à Augustin.
Et aujourd'hui, quand on parle du thomisme en deux phrases.
Le thomisme, c'est le thomisme, c'est le. Ce sont les disciples de saint Thomas qui ont commenté, saint Thomas. Donc, c'est jusqu'à nos jours. Il y a toujours des thomistes. Hein. Les thomistes, c'est le courant de tradition théologique, le courant de théologiens qui a commenté saint Thomas, du vivant de saint Thomas et dès après la mort de saint Thomas jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est un courant extrêmement varié, très contradictoire. Ah. Et je vais vous en parler... la prochaine fois, parce que ça a beaucoup conditionné l'évolution de la morale. Justement.
D'accord. Beaucoup. Vous nous ferez une petite synthèse de ce que c'est que le thomisme.
Je vous ferai une synthèse, mais retenez dès maintenant que le thomisme, c'est les disciples de saint Thomas, le courant qui a commenté saint Thomas.
D'accord. Et alors, le catéchisme de l'Église catholique d'aujourd'hui est complètement inspiré.
Oui.
Oui.
Il est très majoritairement, fortement inspiré. Il est, c'est une des sources les plus importantes et qui est très facilement décelable. Hein. Quand on connaît un peu saint Thomas, on voit très bien que le catéchisme est fortement inspiré de la somme de théologie, en particulier dans la partie morale.
Et Marguerite, ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure, sans réduit. Je ne dirais pas pour les nuls.
Mais, c'est-à-dire que le catéchisme est beaucoup plus accessible que la somme de théologie.
Voilà, oui, oui, c'est voilà. Un peu pour les nuls, quoi. Bon, très bien.
Okay. Voilà. Merci. Il y a une dernière question, on arrête là, comme vous voulez.
Peut-être. Vous avez dit déjà auparavant qu'il y a une différence, il y a pas mal de différences entre les thomistes actuels et puis saint Thomas. Oui. Est-ce que vous pourriez expliciter ça? Parce que justement, le catéchisme est extrêmement inspiré de saint Thomas. Quelles sont les différences? Par exemple, entre, je sais pas, entre Jean-Paul II et saint Thomas.
Oui. Oula.
Je vais expliquer ça en cours, dans le prochain cours.
Et prochain cours, Georges.
Pour répondre à la question. Que, oui, c'est le cours. Mais je dis simplement que le thomisme qu'utilise Jean-Paul II est très éloigné de saint Thomas. C'est une forme de thomisme qui est très éloignée de saint Thomas. Mais je vous en dirai plus dans le cours à venir.
Voilà. C'est comme quand on parle du gaullisme à l'heure actuelle, en fait. Non, mais quelque chose comme ça, il reste des traces, mais...
Non, mais c'est dès lors qu'on se réfère à un fondateur, vous savez,
oui.
Dès qu'on se réfère à un fondateur, on le trahit plus ou moins. Oui, c'est la règle de l'histoire, ça. C'est... Alors, je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
Et puis,
on va voir si on déconfine.
Voilà.
Allons voir si on nous déconfine pour la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir.
Merci beaucoup. Ah, oui, on est encore
merci,
là.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Allez, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.